France Inter, vous l'avez entendu, il est 7h. Le journal d'Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les Britanniques, plus que jamais isolés sur leur île, face à l'apparition d'une variante du coronavirus qualifiée de hors de contrôle par Londres, une vingtaine de pays européens, dont la France, ont décidé de fermer leurs frontières à tous les passagers en provenance du Royaume-Uni. Les autres titres, Agnès.
Ce virus mutant est-il véritablement plus dangereux? La réponse d'un scientifique de l'Institut Pasteur. Alors que l'Agence européenne du médicament doit donner son feu vert aujourd'hui, le portrait dans ce journal du couple de chercheurs allemands qui a faudé BioNTech. Un conseil des ministres ce matin en visio pour fixer le calendrier électoral des deux prochaines années. Et puis cap sur les JO de Tokyo cet été pour les handballeuses françaises vice-championnes d'Europe.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, Clément Beaune. Depuis hier soir, le conseil de défense sanitaire donc a décidé de fermer les frontières avec le Royaume-Uni. Question au secrétaire d'État aux affaires européennes. Et puis à 8h20, le grand entretien de la matinale sera consacré à notre police. Colère, malaise dans l'institution policière. L'Élysée a décidé d'organiser un Beauvau de la sécurité. Est-ce que cela réglera le problème des violences policières? Appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
Des dizaines de passagers en provenance de Grande-Bretagne se sont retrouvés bloqués hier soir dans les aéroports allemands, contraints de passer un test de dépistage et d'attendre les résultats, car l'Allemagne, comme l'Italie, l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, le Canada et Israël, a décidé de suspendre tous les déplacements avec le Royaume-Uni après la découverte donc d'une variante du coronavirus. Et en fin de journée, la France a fait de même, suspendant pour 48 heures trains, avions, ferries et trafic routier. Résultat, une ruée sur le dernier Eurostar, arrivé hier soir, Gare du Nord. C'est un reportage de Rémi Brancato.
C'est, semble-t-il, la capitale qu'il faut fuir. Le dernier Eurostar parti de Londres hier soir était plein.
Je devais rentrer un peu plus tard, mais là je rentre maintenant. Je l'ai anticipé.
Les expatriés français sont soulagés d'arriver en Gare du Nord à Paris juste avant la suspension des liaisons, comme Grégory, avocat à Londres.
C'est un coup de chance d'avoir eu le train aujourd'hui. J'ai regardé les infos, j'ai vu que c'était un petit peu chaud pour cette semaine. J'avais prévu ce train, mais quand j'ai vu qu'il y avait eu une nouvelle souche du virus, je me suis dit que valait mieux pas tarder. J'espère quand même que les Français qui sont encore à Londres vont pouvoir passer de bonnes fêtes.
Plusieurs pays ont aussi suspendu les vols en provenance du Royaume-Uni, alors Armand a dû s'adapter en urgence.
J'avais prévu de prendre un avion, Birmingham, Amsterdam, Amsterdam-Paris, qui a été annulé au moment où j'étais à l'aéroport. Donc, précipitation pour aller jusqu'à Londres. J'ai réussi à prendre un train en dernière minute. Je pensais être bloqué en Angleterre. Ça voulait dire vraiment Noël toute seule.
Et ce scénario-là, pas question de l'envisager pour Mathieu. Toute sa famille est à Paris.
C'était pas possible, quoi. Ceux qui sont à Londres, en fait, ils n'ont pas le droit de voir leur famille pour Noël. J'allais tout essayer pour partir, parce que surtout tous mes amis de Londres étaient partis, donc j'aurais été tout seul.
Quant à savoir s'il sera possible de revenir facilement au Royaume-Uni, la question se posera plus tard, et de toute façon beaucoup sont désormais habitués au télétravail.
Un reportage de Rémi Brancato, et à noter que le port de Douvres a également fermé hier soir son trafic sortant. Alors ce qui a provoqué cette fermeture des frontières, ce sont les propos du ministre de la Santé britannique, qui a parlé hier d'une variante du coronavirus hors de contrôle, jusqu'à 70% plus contagieuse. Ce n'est pas la première mutation du virus et c'est normal qu'un virus mute. Mais cette variante est-elle plus dangereuse? Met-elle en péril la campagne de vaccination? Réponse du professeur Étienne Simon Laurière. Il est responsable du laboratoire évolution génomique des virus ARN à l'Institut Pasteur.
C'est rare qu'un virus, c'est même très rare, qui change significativement de symptomatologie. Et donc, il va rester probablement aussi embêtant qu'il est aujourd'hui, pas plus, pas moins. Ce qui est déjà largement un gros problème. Il y a déjà beaucoup d'équipes qui sont en train de caractériser ce variant avec cette combinaison de mutations pour comprendre dans quelle mesure ça pourrait affecter une réponse d'anticorps, donc une réponse immune de personnes qui sont naturellement immunisées après avoir vu le virus, soit qui ont été vaccinées, et puis pour comprendre peut-être si ce variant serait un petit peu plus transmissible. Une des mutations qui est associée à ce nouveau variant, c'est dans le site de liaison au récepteur qui est dans la spike. Donc peut-être que cette mutation-là, qui pourrait aider légèrement à faire le lien entre le virus et le récepteur à la surface de nos cellules, et donc l'entrée du virus, pourrait effectivement c'est encore des hypothèses, hein, mais pourrait aider le virus à rentrer plus efficacement et donc à être un peu plus transmissible.
Des propos recueillis par Hélène Chevalier. C'est justement aujourd'hui que l'Agence européenne du médicament doit se prononcer sur le vaccin développé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech. Ce vaccin, c'est donc aussi l'histoire d'un couple de chercheurs allemands d'origine turque qui a créé il y a 12 ans la société BioNTech. Histoire d'un succès sans précédent avec Ludovic Piétenu à Berlin pour France Inter.
Il est un témoin privilégié du succès de BioNTech. Le professeur Ulrich Förstermann a rencontré le couple Sahin Türeci au début des années 2000 quand ils sont arrivés à la faculté de médecine de Mayence dont il est aujourd'hui le directeur scientifique.
Ils étaient des jeunes chercheurs et médecins. J'étais impressionné par leur précision de la présentation de recherche. C'était exceptionnel.
Et c'est grâce au soutien de l'université qu'ils ont pu installer BioNTech dans un bâtiment tout neuf.
Loués pour eux. Ils étaient financièrement pauvres à l'époque.
Aujourd'hui, le couple est multimilliardaire.
Je suis très sûr que Uğur et Özlem sont pas principalement concernés par gagner de l'argent.
Ce sont de vrais chercheurs. La preuve, dit-il, malgré des mois de travail ininterrompu, Uğur Sahin enseigne toujours à l'université et Özlem Türeci signera dans quelques jours son contrat de professorat.
C'est absolument impressionnant.
Dans le même temps, la start-up accélère sa capacité de production.
BioNTech a acheté à Marbourg une usine de Novartis. Ils ont ensuite construit ici à Mayence une grande entreprise pour la production.
Avec ces deux nouveaux sites, l'objectif en 2021 est de produire 1,5 milliard de doses du vaccin. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Et cette success story est à retrouver sur franceinter.fr. À noter que l'Agence européenne des médicaments se penchera le 6 janvier prochain sur le vaccin développé par la société Moderna. Et le contraste était saisissant hier entre les rues de Londres déserte, les habitants de la capitale et du sud-est de l'Angleterre sont reconfinés et les abords des grands magasins parisiens bondés pour les achats de Noël. À l'entrée des commerces, ce sont les agents de sécurité qui doivent veiller à l'application des gestes barrières. Emeline Ferry s'est rendue à la Fnac Montparnasse à Paris.
À l'entrée du magasin, Abdel a un œil sur les clients qui défilent. Il ne faut pas dépasser une personne pour 8 mètres carrés.
On a deux téléphones, une à la sortie, une à l'entrée. C'est une application qui est tout simple. Là, il y a deux clients qui sont sortis. On va faire un, deux, tape le chiffre.
Ici, c'est 873 clients maximum en même temps dans les rayons. Sinon, il faut attendre dans la rue. Ce sera le cas dans les prochains jours, c'est sûr, prévient le vigile. Avec ses collègues, il doit aussi veiller au respect des gestes barrières.
Quand on est à la porte, on doit vérifier que le client il a son masque, il faut qu'il désinfecte sa main. Sans oublier notre métier initial, c'est la sûreté, ça veut dire qu'il faut qu'on contrôle les sacs. On est toujours en plan vigipirate aussi, il faut qu'on fasse attention à ça. C'est beaucoup de boulot pour nous. Il faut être concentré partout, il ne faut pas se louper.
Davantage de missions et davantage d'affluence depuis 3 semaines. Alors il a fallu renforcer les équipes jusqu'à doubler les effectifs dans certains magasins, constate Dan Belaïch, président fondateur de la société de sécurité privée Protectim.
On a quand même fait appel à nos ressources internes. Comme effectivement, nous, on a des agents qui travaillent aujourd'hui pour l'événementiel qui sont aujourd'hui en chômage partiel. Ça nous a permis de les sortir, de les former sur ces spécificités qui sont liées à la gestion de flux et derrière de les utiliser ou d'aller recruter.
Et il y aura encore des renforts dans les magasins cette semaine pour gérer la course aux tout derniers achats de Noël.
Ici, les librairies sont rouvertes, théâtres, musées et cinémas restent fermés. Décision dénoncée en justice, plusieurs référés liberté ont été déposés la semaine dernière. Le Conseil d'État se penche sur la question aujourd'hui. Décision attendue demain, mercredi au plus tard.
Il est 7h09, deux élections au menu d'un Conseil des ministres exceptionnel ce matin.
Un conseil non pas à l'Élysée mais en visioconférence. Emmanuel Macron, 43 ans aujourd'hui, est toujours à la lanterne où son état de santé est qualifié de stationnaire. Au menu donc, l'organisation des prochaines séances électorales avec deux projets de loi. Maxence Lambrec.
Il ne devrait pas y avoir de débat par caméra interposée autour de ces deux textes. Ils font consensus. Les élections régionales et départementales seront reportées de la mi-mars au dimanche de la fête des Pères, le 20 juin, avec un second tour le 27 juin, si toutefois le conseil scientifique donne son feu vert en avril. Et pour anticiper déjà une campagne sous Covid avec plus de supports papier et numérique que de rencontres physiques, le plafond des dépenses sera relevé. Le second texte, lui, touche au cœur du réacteur, le financement de la prochaine campagne présidentielle. D'ordinaire, les comptes de campagne sont ouverts un an avant le scrutin, ce qui veut dire avril avril prochain. Mais nous serons alors en pleine campagne des régionales. Et Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez sont tentés de courir les deux courses. Attention aux confusions et aux arrangements. Le gouvernement préfère donc reporter l'ouverture des comptes de la campagne présidentielle au mois de juillet prochain, une course à la fois. Et à mon avis, il y aura d'autres retouches, prévient un poids lourd de la majorité. La présidentielle sous Covid, ce serait un gros problème.
Élection aussi au conseil municipal à Marseille. Le socialiste Benoît Paillon, seul candidat en lice aujourd'hui, devrait succéder à Michèle Rubirola, qui elle va devenir première adjointe. Direction les États-Unis à présent, où le Congrès a fini par tomber d'accord sur un nouveau plan de soutien. Un plan à 900 milliards de dollars, soit 737 milliards d'euros, pour venir en aide aux plus fragiles. Un plan qui fait suite à un premier voté au printemps dernier. Correspondance à Washington de Grégory Phillips.
À la mi-avril, des millions d'Américains avaient reçu un chèque de 1 200 $ signé Donald Trump, un virement ou une carte de crédit du même montant. Dans les prochaines semaines, ceux qui ont des revenus inférieurs à 99 000 $ par an, soit environ 9 Américains sur 10, recevront un nouveau chèque de 600 $, 1 200 par couple, 2 400 pour une famille avec deux enfants. Cette aide est un premier pas, a commenté hier soir la démocrate Nancy Pelosi, qui préside la Chambre des représentants, mais il faut faire, dit-elle, beaucoup plus pour aider les Américains. Le plan bipartisan prévoit aussi une aide de 300 $ par semaine pour ceux qui ont perdu leur emploi jusqu'à la fin mars. Enfin, un tiers de ce plan d'aide sera dédié aux petites entreprises, car l'économie américaine redémarre, mais trop lentement. Ces deux dernières semaines, le taux de chômage est reparti à la hausse. Il avoisine désormais les 7% au lieu de 3,5% avant l'épidémie. Au 31 décembre, enfin, des millions de locataires américains incapables de payer leur loyer risquent l'expulsion. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et puis les discussions continuent à Bruxelles entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour éviter une sortie sans accord dans 10 jours. Les entreprises françaises aussi se préparent. Nous y viendrons dans le journal de 7h30. Enfin, vous connaissez l'expression, Karine, perdre une bataille.
Bah oui, c'est pas perdre la guerre.
Eh ben voilà. Alors, elles étaient bien sûr terriblement déçues, les handballeuses françaises.
Ah bah oui,
hier.
Moi aussi.
Elles se sont inclinées en finale de l'Euro 2020, 22-20 face aux Norvégiennes. Mais le palmarès de l'équipe de France féminine de hand reste impressionnant ces dernières années. Et un nouvel objectif semble à portée de tir, Jean-Pierre Bimaud.
Les Françaises n'ont pas pu retenir leurs larmes au terme d'une finale qu'elles n'ont pas prise par le bon bout. Mais très vite, les pensées se sont tournées vers Tokyo et ces Jeux Olympiques qui leur tendent les bras. Les Bleus se sont réinstallés à la table des meilleures nations du hand féminin et c'est bien le principal, estime la gardienne Cléopâtre Darleux, qui a réalisé un match exceptionnel.
5 minutes après, en fait, on a tout de suite eu cette image des JO où on s'est dit on préfère gagner la médaille d'or aux JO qu'aujourd'hui. Quoi. On sait qu'on a un énorme potentiel, qu'on a encore une marge de progression. Elle, un peu moins que nous.
Il faut dire que les Bleus continuent leur moisson de médailles depuis 4 ans. Seule l'élimination douloureuse du Mondial 2019 est venue vraiment ternir le parcours des Françaises, de nouveau lancées vers ce nouvel objectif olympique. Et cette médaille d'argent face aux Norvégiennes est tout de même pleine de promesses, estime l'entraîneur des Bleus, Olivier Crumbles.
Il faut arrêter avec le handball français qui veut que des médailles d'or. Cette équipe, depuis 2016, vous vous rendez compte les résultats ? Sur 6 compétitions, il y a 2 titres, il y a 2 finales, il y a une 3e place. On est presque les meilleurs du monde avec la Norvège.
Élue meilleure joueuse de l'Euro, l'ailière française Estelle Enzeminko a aussi glané une belle récompense, même si, curiosité de la compétition, aucune tricolore ne figure dans l'équipe type, publiée au terme de cet Euro, dernière marche avant les JO.
Autrement dit, on lâche rien.
Et on donne tout. Merci Agnès Soubiran.